quand on avait acquis, comme que ce fût, la qualité de prince du sang et l'habilité à succéder à la couronne, il fallait bouleverser l'État et mettre tout en feu plutôt que de se les laisser arracher. Propos de la duchesse du Maine, rapporté par le duc de Saint-Simon, Mémoire, tome 7. Prologue. Paris, mercredi 27 avril 1718. Les pieds dans la vase, la vieille femme cherchait son fils. Malgré le chagrin, elle avait pris soin de rentrer les pans de sa robe de serge dans la ceinture de son tablier, et elle descendait maintenant à la Seine comme une bête va à l'abreuvoir. Ses bas sales, jetés sur les épaules, faisaient de longues oreilles à son bonnet pendant qu'elle scrutait les piles du pont des Tournelles. Au lever du soleil, son garçon était allé s'embaucher au débardage du port Saint-Bernard, car il était bâti comme un Hercule et n'avait pas son pareil pour tirer les grumes échappées des trains de bois flottés. Par malheur, son pied avait ripé entre deux poutres de chêne et il était tombé à l'eau. Ses compagnons avaient bien essayé de le repêcher avec la pointe de leur crochet de fer, mais il n'était parvenu qu'à déchirer sa chemise et à lui lacérer la peau sans le sauver. Le corps, emporté par le courant, ne pouvait pas être allé bien loin. Pour autant, mieux valait le retrouver avant qu'il ne soit harponné par les hommes du guet et conduit à la morgue, où elle devrait alors payer leur écho aux religieuses qui gardaient jalousement les cadavres et ne ramenaient pas pour la suie. Aussi la mère avait-elle besoin de l'aide des saints du paradis, car pour ce qui était de celle des hommes, il ne fallait pas y compter. À l'aube, la pauvre veuve était sortie du faubourg Saint-Victor, car elle devait être la première à passer à l'ouverture de la porte Saint-Bernard. Ensuite, elle avait marché d'un bon pas jusqu'au couvent des Grands Augustins, où après bien des palabres, on lui avait concédé pour 20 deniers le morceau de ce pain béni indispensable à la réussite de l'opération. Elle était repartie aussitôt, remontant le fleuve en amont sur une bonne lieue, avant de s'arrêter là où la Seine avait englouti son fils. Maintenant, elle voulait le lui faire régurgiter comme la baleine avait recraché Jonas. La pauvre vieille s'accroupit sur les talons, sortit d'un grand mouchoir une écuelle de bois, une chandelle de suif et le morceau de pain frotté aux saintes reliques. De la sébile, elle fit une fragile embarcation sur laquelle elle posa délicatement l'hostie consacrée et la chandelle de suif avant de l'allumer d'un coup de briquet, puis de mettre le tout à l'eau, non sans se signer consciencieusement après chaque geste. Enfin, pendant que le petit lumignon s'éloignait sur les bords du fleuve, elle récita 9 pater sans jamais le quitter des yeux, priant qu'avec l'aide de saint Nicolas de Tolentin, patron des mères et des enfants, il la conduise infailliblement jusqu'au cadavre de son fils. Lorsqu'elle vit la chandelle se prendre dans les cordages d'un bateau de foin arrimé au quai des Tournelles, juste en face de la maison des filles de Sainte-Geneviève, elle se crut exaucée et remercia le saint pour sa grande miséricorde. Abandonnant ses sabots sur la berge, la mère se précipita les pieds nus vers cet endroit précis du quai, mais ce fut pour voir monter une épaisse fumée blanche avant que le bateau ne s'embrase soudainement sous ses yeux. Des cris s'élevèrent aussitôt et des hommes accoururent. Il fallait conduire au plus vite le navire au milieu du fleuve avant de le couler par le fond, afin d'éviter que le feu ne gagne les autres embarcations chargées de bois et de charbon. Mais le propriétaire s'y refusait obstinément. À défaut de sauver la cargaison qu'il savait perdue, il croyait encore possible d'épargner son navire. Il eût préféré se pendre plutôt que de le saborder. Mais les marchands de bois qui régnaient en maître absolu sur ce tronçon du fleuve et dont la fortune était entreposée en piles serrées le long des berges, ne l'entendaient pas de cette oreille. De peur que le feu ne les ruine à leur tour, ils envoyèrent leurs propres hommes couper à la hache la corde d'amarrage. Le bateau en flammes, poussé par un léger vent d'est, s'éloigna sur le fleuve où pendant quelques instants il parut hésiter sur la direction à prendre, avant d'emprunter le petit bras de la Seine et de s'engager sous les 2 ponts de l'Hôtel-Dieu comme une torche qui viendrait caresser les voûtes des catacombes. À ce moment-là, tous ceux qui suivaient sa course depuis le quai des Tournelles le perdirent du regard et crurent un instant à un embrasement du soleil couchant. En réalité, le brasero flottant venait de s'encastrer dans les cintres de bois qui soutenaient les encorbellements trop ventrus des maisons du petit pont. Les flammes se lancèrent alors à l'abordage de ce méandre de poutres et de charpentes pour s'engouffrer dans les réserves de maisons marchandes. Il était à peine 7 heures du soir lorsque toutes les fenêtres des immeubles construits sur le pont et serrés depuis des siècles contre le petit Châtelet se mirent à vomir du feu au moment où les malades de l'Hôtel-Dieu crachaient leur sang. Les habitants, surpris alors qu'ils baissaient les hauts vents de leurs boutiques, se virent perdus. Après le terrible hiver 1709, ils avaient craint que les cintres de bois qui soutenaient leurs entrepôts ne soient emportés par la débâcle des glaces, mais l'enfer avait choisi de les arracher à la quiétude d'une douce soirée de printemps, au moment de sortir de table. Certains sautaient déjà par les fenêtres quand d'autres cherchaient leur salut du côté des quais, les bras chargés de ce qu'ils avaient de plus précieux. Lorsque le feu gagna la deuxième rangée de maisons, le pont ne fut plus qu'une étroite fournaise qui se refermait sur leurs locataires, comme la mer rouge sur les armées de Pharaon. On voyait des servantes en chemise, jambes nues et bonnets sur la tête, car elles venaient à peine de souffler leurs chandelles, courir en tous sens. Un véritable canal de feu enjambait désormais la rivière, et depuis les parapets du pont Neuf, où les badauds agglutinés étaient venus se repaître d'un si beau malheur, Notre-Dame semblait reposer, intacte et inviolée, une sainte martyre au milieu d'un grand bûcher. Les poutres calcinées tombaient dans le fleuve, sur lequel flottait déjà une multitude d'objets lancés depuis le pont pour en soustraire la grande valeur aux flammes. Les soldats et les capucins chargés de combattre l'incendie arrivaient depuis les faubourgs armés de pelles et de pioches afin de jeter de la terre sur le feu, car les pompes, qui allaient pourtant à grande force, ne faisaient que l'irriter comme un fauve révolté par les claquements du fouet. Des bourgeois arrosaient leurs portes avec l'eau des puits dans l'espoir de détourner le feu, mais en vain, et les flammes menaçaient maintenant de s'en prendre à l'île de la cité tout entière. Au midi, l'antique forteresse du Petit Châtelet protégeait courageusement la rive gauche de sa cuirasse maçonnée sous Charles V. Le cardinal de Noailles, abrité sous un dais de cérémonie, accourut à l'Hôtel-Dieu entouré de ses diacres et des chanoines, priait avec ardeur pour que la colère du ciel et la violence du feu épargnent l'hôpital et ses milliers de malades que personne n'avait encore songé à évacuer. Effrayé par cette horrible perspective, son éminence donna aussitôt des ordres pour que ces malheureux puissent être transportés à l'archevêché tout proche et fit ouvrir ses propres appartements sans crainte de les voir souillés par cette misère humaine. Ses domestiques frémirent de dégoût devant les linges infects et purulents, mais s'exécutèrent. Au même moment, les hommes du guet fermaient les rues adjacentes et empêchaient la foule avide de pillage autant que de spectacle de venir se jeter tête la première dans la fournaise. Le cardinal avait été rejoint par tout ce que le palais comptait de robes rouges et de bonnets carrés. Depuis le grand salon de l'Hôtel-Dieu, dont les larges fenêtres permettaient d'ordinaire de faire prendre le frais aux tuberculeux, ces graves magistrats contemplaient le désastre en s'interrogeant sur les remèdes à lui apporter.